Radio Prague, les informations.
La Cour constitutionnelle rejette la plainte du député David Rath. Le gouvernement approuve une augmentation des moyens de la police pour gérer les manifestations. Et puis une exposition retrace les 130 ans du mouvement Sokol. La Cour constitutionnelle rejette la plainte du député David Rath contre la procédure pénale ouverte contre lui. La décision a été prise par le Sénat de la Cour constitutionnelle en séance fermée. Selon l'attaché de presse de la Cour, la requête de David Rath a été rejetée parce qu'elle n'était pas justifiée. L'ancien président du Conseil régional de Bohême Centrale est soupçonné d'être impliqué dans une affaire de corruption. Il a été mis en détention préventive. Le gouvernement tchèque a approuvé une proposition du ministre de l'Intérieur Jan Kubice d'augmenter le budget de la police de Prague de 15 millions de couronnes dans le but de gérer des manifestations anti-gouvernement. La majeure partie de cette somme, soit 10 millions, doit couvrir les heures supplémentaires des officiers de police, les permanences, le reste étant destiné aux assurances, à l'essence, le transport et la restauration. Le ministre de l'Intérieur avait justifié sa demande auprès du cabinet par un manque de moyens pour l'ordinaire de la police suite aux coupes dans le budget. Une manifestation contre le gouvernement s'est tenue place Venceslas le 21 avril dernier, attirant des dizaines de milliers de personnes, une des plus grosses manifestations dans le pays depuis la révolution de velours en 1989. Le nombre de ressortissants tchèques emprisonnés à l'étranger a doublé en 2011, d'après des chiffres publiés par le ministère des Affaires étrangères. Selon celui-ci, plus de 1000 citoyens purgeraient une peine de prison ou étaient incarcérés à l'étranger à la fin de l'année 2011, soit environ 400 de plus que l'année précédente. Ces chiffres sont très certainement plus importants, car le ministère ne se base que sur les données reçues par les différentes missions diplomatiques à travers le monde. Selon ses sources, c'est à Londres que l'on trouve le plus de tchèques incarcérés, 141 suivis de Munich, 134, et Madrid, 105. Et puis selon le bureau tchèque des statistiques publié ce mardi son rapport, 10% de la population était menacée de pauvreté en 2011. Le nombre de personnes vivant avec un revenu en dessous du seuil de pauvreté est passé de 86 000 à 1 022 000, et leur proportion représentait 9,8% de la population par rapport à 2010 où on en était à 9%. D'après ces chiffres, les deux tiers des foyers tchèques gèrent difficilement leur vie quotidienne avec leurs revenus, et seul un tiers des foyers n'a pas de problème. Plus d'un quart des foyers estiment que les frais liés au logement sont les plus difficiles à gérer. Une exposition retraçant l'histoire de l'organisation gymnastique Sokol a été inaugurée lundi, précisément 130 ans après le tout premier rassemblement du mouvement à Prague. Le musée militaire situé dans le quartier de Žižkov présente ainsi 500 objets d'exposition familiarisant le public avec les membres légendaires du Sokol, le rôle de l'organisation pendant la guerre et les médailles olympiques remportées par certains de ses adhérents. Le mouvement Sokol a été fondé en 1862 et en dehors de son aspect sportif a joué un rôle important dans le réveil national en pays tchèque au 19e siècle. Et puis à noter que Tomáš Hrosický, le meneur de jeu de la République tchèque qui est de retour à Prague pour y subir un traitement à son tendon d'Achille touché contre la Grèce, est très incertain pour participer au quart de finale de l'Euro 2012 face au Portugal jeudi. Voilà, on finit par un mot de météo. Mercredi, nous fêterons les Květas en République tchèque. Le temps sera d'abord clair puis nuageux avec des pluies et des orages. Les températures maximales seront comprises entre 27 et 31 degrés. C'est tout pour ce bulletin d'information. Tout de suite, la suite du programme présenté par Paul Bauer. Merci de rester avec nous.
Faits et événements en République tchèque.
Dobrý den, bonjour à toutes et à tous. Merci Anna Kubišta pour ce bulletin d'information et bienvenue à l'écoute de l'actualité sur Radio Prague. Au sommaire d'aujourd'hui, mardi 19 juin, Euro de football, les Tchèques ont été accueillis chaleureusement par les Polonais, le signe d'une évolution des relations entre les deux pays qui partagent une histoire commune difficile. Relations polono-tchèques, je t'aime moi non plus, c'est le reportage de Guillaume Narguet. Musique classique, le chef d'orchestre belge Ronald Zolman est invité à diriger l'orchestre symphonique de la radio tchèque. On verra les détails avec Václav Richter. Et en deuxième partie d'émission, Anna Kubišta revient dans sa rubrique Panorama sur le collectif Storoven qui a récemment piraté les communications téléphoniques de plusieurs hommes politiques au pouvoir pour les faire réfléchir sur la moralité de leur action et la corruption qui gangrène la scène politique tchèque. Disons bientôt que les membres de Storoven questionnent l'ordre établi par le pouvoir politique. On voit tout cela en détail. Bonne écoute à toutes et à tous.
«
La tenue du championnat d'Europe de football en Pologne et en Ukraine a rappelé aux Tchèques combien les Polonais les appréciaient. À Wrocław, où elle a disputé ses 3 matchs de groupe, l'équipe de la République tchèque et ses milliers de supporters ont été accueillis à bras ouverts. Et à en croire les sondages, les Tchèques seraient les voisins préférés des Polonais. Mais l'inverse n'est pas valable, les Tchèques manifestant somme toute peu d'intérêt pour ce qui se passe au nord-est de chez eux. Un manque d'intérêt qui ressemble même fort à une certaine forme d'indifférence. Les relations polono-tchèques, je t'aime, moi non plus, avec Guillaume Narguet.
En battant la Pologne 1-0 samedi dernier à Wrocław et en se qualifiant ainsi à ses dépens pour les quarts de finale de l'Euro, l'équipe de République tchèque a plongé tout un pays dans la tristesse. Pourtant, aussitôt la fin du match, les dizaines de milliers de Polonais présents dans le stade et qui avaient jusque-là fanatiquement supporté leurs protégés ont rendu un vibrant hommage aux joueurs tchèques en les applaudissant longuement. Une façon de leur faire comprendre, si besoin encore en était, que c'est désormais pour la République tchèque que les cœurs polonais allaient battre pour la suite du tournoi. Mais si le championnat d'Europe se tenait en République tchèque, il serait difficile d'imaginer que les Tchèques soutiennent avec la même ferveur sincère la sélection polonaise. Au contraire, celle-ci évoluerait probablement dans l'indifférence générale, au même titre que les autres sélections de pays plus éloignés. C'est donc avec une certaine surprise que les supporters tchèques ont découvert l'accueil chaleureux qui leur était réservé à Wrocław. Mais ce n'est pas la seule chose qui a surpris les Tchèques, comme l'expliquait avant le début de l'Euro le célèbre journaliste et écrivain polonais Mariusz Sigal, auteur de plusieurs livres consacrés à la République tchèque et notamment Gotland, traduit en français.
Ils seront sans doute surpris de voir, par exemple, que nous buvons de la bière avec du sirop de framboise. Ils seront aussi surpris de voir que nous n'avons pas d'autoroute, que nos routes sont dans un état lamentable, mais que nous arrivons quand même à vivre. Mais surtout, ils seront surpris de voir à quel point les Polonais les trouvent très sympathiques. Ils sentiront que nous les aimons vraiment.
À Wrocław, il est vrai, ville du sud de la Pologne, distante de seulement 280 km de Prague, les Tchèques ont eu le sentiment d'évoluer à domicile ou presque. Un sentiment né de l'accueil des habitants de la ville, mais pas seulement, comme s'en réjouit l'acteur Olaf Lubaschenko, lui aussi amoureux de la République tchèque.
Je suis content que les Tchèques viennent justement à Wrocław, qui est devenu le symbole des changements positifs en Pologne. On peut dire que Wrocław est la ville de Pologne la plus européenne, de tous les points de vue, grâce à l'architecture et grâce à la culture.
En Pologne, où l'humour, la quiétude, le cinéma ou encore la musique tchèque sont particulièrement appréciés, nombreux sont ceux toutefois à regretter que les Tchèques ne s'intéressent pas plus à leur pays et à sa culture. Même s'il n'est pas un passionné de football, Mariusz Sigal estime donc que l'organisation de ce championnat d'Europe est une occasion unique pour les deux peuples slaves de se rapprocher.
Ah non, je peux aller à Wrocław.
Oui, moi aussi je suis content que les Tchèques viennent précisément à Wrocław. Certes, ce n'est pas une ville aussi belle que les villes tchèques, mais c'est quand même une belle ville. Je pense que les Tchèques ne savent pas grand-chose de la Pologne. La Pologne ne les intéresse pas, tout simplement. Le championnat d'Europe est donc pour les Tchèques l'occasion de découvrir et d'apprendre quelque chose de nouveau.
Sa vision des choses est également partagée par la traductrice Anna Vanik, une de ces Polonaises qui apprécie tout ce qui est tchèque, mais qui constate avec quelques regrets.
Les Tchèques ne s'intéressent pas beaucoup à la Pologne. Le tournoi peut être l'occasion pour eux de venir chez nous et de se faire une autre idée de notre pays que celle qu'ils ont encore aujourd'hui et qui remonte aux années 80. Ils pensent que l'eau de notre mer est sale et que nous roulons toujours dans nos petites Fiat polonaises. On peut donc espérer que le tournoi renforcera notre amitié réciproque.
Même s'il est permis de douter de l'intérêt grandissant que porteront les Tchèques à la Pologne une fois l'Euro 2012 terminé, une chose est sûre cependant. À la différence du match Pologne-Russie, disputé dans un climat rendu tendu par les affrontements entre hooligans des deux camps, avant comme après le match Pologne-République tchèque, les supporters des deux camps ont préféré trinquer ensemble plutôt que de se battre. Et même si les Polonais mettent parfois du sirop de framboise dans leur bière, c'est avec un vrai pincement au cœur que beaucoup de supporters tchèques, touchés par l'accueil, ont quitté Wrocław.
Place à la musique, Ronald Zolman est le principal chef invité de l'orchestre symphonique de la radio tchèque. Cet artiste né en 1950 à Anvers, qui a dirigé au cours de sa carrière beaucoup de formations symphoniques renommées, revient donc depuis une année régulièrement à Prague pour travailler avec son orchestre. Récemment, il a donné avec cette formation un concert dans la grande salle du Rudolfinum avec au programme des œuvres de Martinu, de Kabalevski et de Dvořák. À l'issue de ce concert très applaudi, Václav Richter a rencontré Ronald Zolman.
Qu'est-ce que ça vous fait de diriger la musique tchèque devant le public tchèque? Est-ce que c'est différent, par exemple, des concerts où vous présentez cette musique au public étranger?
C'est en tous les cas différent pour moi parce qu'il y a un choc émotionnel. C'est comme diriger le Sacre du Printemps au Théâtre des Champs-Élysées à Paris où il a été créé. Ce n'est pas pour ça que c'est mieux ou moins bien, mais il y a quelque chose qui se passe. On sent une vibration particulière. Je crois que c'est autant en moi que de la part du public, mais les Tchèques ont un grand sens de la musique et évidemment un grand sens de la musique nationale tchèque, un grand amour de leur musique. Vous êtes un pays où il y a un grand amour de la patrie, une grande fierté justifiée. Je ne dirais pas un nationalisme, parce qu'aujourd'hui on n'aime pas trop parler en termes de nationalisme, mais je préfère dire un amour de la culture de votre terre. Et c'est merveilleux et c'est très stimulant de pouvoir s'immerger là-dedans.
Depuis un an, vous êtes donc le chef invité, le principal chef invité de l'Orchestre symphonique de la radio tchèque. Pourquoi avez-vous pris ce poste? Est-ce que c'était un objectif ou un hasard, finalement?
Non, c'est avant tout un hasard. Ce n'était certes pas un objectif, mais c'est un plaisir.
Vous collaborez donc avec cet orchestre depuis un an, depuis une année. Est-ce que vos attentes que vous avez apportées au début de ce travail, est-ce qu'elles se sont réalisées?
Pas encore, parce que ce n'est qu'un début, mais je sens une connaissance mutuelle d'évoluer très positivement. Ils me connaissent quand je viens, ils savent le genre de personne que je suis, et je sais aussi jusqu'où je peux aller avec eux, et j'essaie évidemment d'aller un peu plus loin.
Vous êtes élève d'Igor Makevitch. Qu'est-ce que ce grand chef d'orchestre vous a donné? Est-ce qu'il y a quelque chose qui vous accompagne pendant toute votre vie?
Beaucoup de choses. J'ai eu la chance de l'avoir comme premier professeur de direction d'orchestre. C'est un choix que j'ai fait quand j'avais 12 ans. J'ai lu un livre de lui où il parlait de l'enseignement de la direction d'orchestre. Il y a 12 ans, j'avais déjà l'intention de devenir chef d'orchestre et je me suis dit, voilà, c'est avec lui que je veux étudier. Et donc, je l'ai rencontré quand j'avais 16 ans. Il est venu faire des concerts en Belgique. J'ai été le trouver. Je lui ai demandé si je pouvais être son élève. Il m'a accepté comme élève. Et donc, fatalement, le premier professeur, et d'autant plus si c'est un professeur de cette envergure-là, vous marque. Il vous marque au point qu'à un moment donné, il faut s'en détacher. Et donc, j'ai beaucoup appris de lui. Je pense beaucoup à lui. Mais je me suis aussi détaché, j'ai eu la nécessité de le quitter au bout de 3 ans et j'ai eu la chance alors d'aller chez 2 autres grands maîtres. J'ai été étudié chez Hans Swarovski en Autriche et puis chez Franco Ferrara en Italie, qui étaient au fond des gens très contraires l'un de l'autre. Autant Swarovski était intéressé par les voix intérieures dans l'orchestre, autant Franco Ferrara, en véritable italien, cherchait la mélodie. Donc, ils m'ont apporté chacun des choses. Et puis finalement, tout ça, on assimile et on en fait sa propre cuisine. Et on espère que quelque chose va en sortir d'authentique et qui ne peut être que soi-même.
Et ce soir, vous avez présenté la 6e symphonie de Dvořák. C'est une œuvre qui n'est pas très très connue, qui n'est pas très jouée en concert. En quoi cette symphonie diffère des autres symphonies, des grandes symphonies plus connues de Dvořák?
Je ne m'explique pas pourquoi la sixième est moins jouée que la huitième. Elle est plus difficile, ça doit être une raison. C'est pour moi la plus brahmsienne des symphonies de Dvořák, mais elle est très authentiquement Dvořák en même temps. Pour moi, c'est un chef-d'œuvre absolu dans l'œuvre de Dvořák. Et il se fait que je l'ai beaucoup dirigé. J'ai moins dirigé la cinquième, un peu moins la septième, mais finalement la sixième, je crois que je l'ai dirigé 35 fois, ce qui est beaucoup pour quelqu'un qui n'est pas tchèque.
Au tournant de l'année 2012-2013, cela fera 10 ans que le groupe Storhoven aura lancé sa première opération dans l'espace public, en transformant en grand cœur, en néon rose, un immense point d'interrogation. L'interrogation, un principe à la base de toutes leurs actions depuis cette époque, une interrogation pour secouer les choses établies, pour mettre en lumière ce qui peut être pourri dans le royaume d'ici-bas. À l'occasion de leur dernier coup d'éclat, cette fois en pleine chambre des députés, retour sur 10 années de farce et attrape plus que réfléchi. Les détails avec Anna Kubishta.
Panorama.
Panorama. En 2005, les spectateurs de la télévision publique tchèque découvrent avec stupéfaction, dans un programme matinal où la campagne est filmée en direct par des caméras téléguidées, une explosion atomique au milieu de ce paysage bucolique. Ce hacking ou piratage de la télévision tchèque fait connaître les Storhoven hors des frontières de leur pays. Depuis cette opération censée pointer du doigt la manipulation des médias, ils ont continué leur bonhomme de chemin. Dernier coup d'éclat en date, le 5 juin dernier, lors de l'audition de David Rath devant le Parlement réuni pour décider de la levée de l'immunité du député social-démocrate soupçonné de corruption. Là, en cours de séance, les députés reçoivent des SMS, apparemment venus de leurs collègues, faisant les louanges d'un projet de réforme morale ou encore faisant leur mea culpa sur leur comportement passé. Le lendemain, les Storhoven publient sur leur site web leur manifeste appelant à un renouveau moral du monde politique. Un des membres du groupe, qui se fait appeler Petr Žilka, évoque pour nous l'objectif de cette action.
Un des objectifs était d'abord de montrer la fragilité des systèmes de télécommunication. Nous avons montré combien il était simple de détourner le système de SMS spoofing, c'est-à-dire d'usurpation d'identité pour les SMS et de mettre les gens dans l'embarras. Nous avons montré que nous pourrions très simplement faire du tort à quelqu'un. Nous aimerions que les hommes politiques qui nous ont critiqués se rendent compte que cet instrument aurait pu faire du mal, mais que nous avons décidé de ne pas choisir cette voie négative.
Ale vlastně my jsme se rozhodli, že to neuděláme a že nepůjdeme tou cestou negativní.
Message reçu en tout cas, au moins pour le Premier ministre Petr Nečas, qui, s'il n'a pas réagi sur le fond de la réforme morale, s'en est tenu à la partie émergée de l'iceberg, celle d'un problème de sécurité du côté des opérateurs, tout comme la vice-première ministre Karolina Pík, on l'écoute.
Je prends cela comme une blague et je ne me suis pas sentie en danger pour autant. De notre côté, il est extrêmement surprenant de voir comme il est facile de pirater les téléphones portables.
En attendant, peu nombreux sont ceux qui se sont arrêtés sur le message de cette nouvelle action. On écoute Petr Žilka.
Nous n'avons évidemment voulu causer de tort à personne, et c'est là qu'intervient le deuxième thème de ce projet, la réforme morale. Il s'agit de l'expression de l'opinion de tous les membres du groupe contre la situation politique tchèque. Nous voulions exprimer notre mécontentement et notre inquiétude. Lors des dernières élections, les citoyens tchèques ont clairement montré qu'ils ne voulaient plus d'une politique basée sur la corruption et le clientélisme. Or, même s'ils ont voté différemment, cela n'a pas marché. Les hommes politiques n'ont pas changé et au contraire, ils continuent de se comporter de manière louche.
Les Storhoven affirment que le choix de la séance d'audition de David Rath est un hasard, le projet étant préparé depuis bien plus longtemps. Mais ils admettent qu'évidemment, le cas de cet homme politique en vue et soupçonné d'abus de biens publics tombait à pic. Si certains hommes politiques interrogés après l'échange de SMS ont trouvé au mieux l'idée plutôt plaisante, sinon l'ont pris comme une blague de potache, cela n'a pas été le cas de tous les projets du groupe. Pour mémoire, le champignon atomique avait donné lieu à une plainte de la part de la télévision tchèque suivie d'un procès qui avait débouché sur un acquittement. Plus proche de nous, le projet Občanka, citoyen K, qui avait vu ses membres falsifier des photos d'identité et se faire établir de vrais faux papiers, a failli leur coûter cher, la police criminelle étant chargée du dossier avant que celui-ci ne repasse finalement à un tribunal administratif. En attendant, le projet des SMS et de la réforme morale semble, près de 10 ans après le premier projet des Storhoven, fermer une boucle. En 2003, en effet, le groupe dissimule une partie du grand cœur cœur rose en néon, œuvre du sculpteur Jiří David à l'occasion de la fin du mandat de Václav Havel. Le cœur devient point d'interrogation, une façon de se demander où va aller le pays après la période Havel. La réforme morale du monde politique est un principe que n'aurait pas renié l'ancien président et ancien dissident décédé en décembre dernier. Alors les Storhoven, enfants de la révolution de 1989 et de l'héritage de Havel, Otto Horší, membre de Storhoven.
Évidemment,
c'est difficile à dire pour tous les membres du groupe, mais je pense que ce thème résonne en nous quelque part, de même que les prises de position de Václav Havel. Nous sommes à coup sûr les enfants de cette génération qui, à un moment donné, s'est retrouvée à l'âge adulte au moment de la révolution de velours. Je pense que cela nous a tous influencés.
Guérilla Art, artiste activiste, collectif de hackers artistiques, derrière ces définitions dont aucune n'est réellement adaptée, se cache une autre réalité, celle d'un groupe de personnes d'horizons différents, artistes mais aussi étudiants en droit, tatoueurs ou autres, qui tous ont pour point commun de ne pas se satisfaire de la société telle qu'elle est, préférant remettre en question les choses qui posent problème. Alors qu'on dit les Tchèques, souvent apathiques, les Storhoven, eux, s'engagent dans le débat de société, quand bien même se défendent-ils d'être politiques. Peter Žilka.
Zacházet se slovem politika je velmi ošemetné.
Quand on parle de politique, on est en terrain glissant. Nous essayons d'être apolitique dans le sens où nous ne nous réclamons d'aucun parti, d'aucune philosophie politique existante. Vous trouverez au sein du groupe des points de vue très différents sur la politique, des gens de gauche, des gens de droite. Donc il n'est pas possible d'avoir une position politique unique. D'un autre côté, tous nos projets sont politiques dans le sens large du terme parce qu'ils parlent de sujets qui nous concernent tous. Nous ne disons pas quel est notre point de vue, ni comment les choses devraient être, mais nous essayons de poser les bonnes questions, de proposer un miroir à la société afin qu'elle ait la possibilité de voir la réalité sous un autre angle et par conséquent de susciter un débat.
Détesté par certains membres de la communauté artistique ou au contraire adulé par d'autres, le groupe Storhoven ne laisse en tout cas personne indifférent. Avançant masqué à la façon de Zorro, mais sans être pour autant des vengeurs ou des Robins des Bois des villes, les Storhoven sont plutôt les héritiers spirituels des Rychlé-Chipé, les Flèches Rapides, les héros d'une bande dessinée tchécoslovaque créée en 1938, mettant en scène une bande de jeunes garçons liés par l'amitié et la fraternité qui vivent ensemble de nombreuses aventures. Certains des membres du groupe Storhoven sont passés autrefois par des organisations de jeunesse où l'on apprend tôt à camper, survivre dans les bois, à vivre en dehors de la société. D'autres encore ont été taggeurs, sprayeurs durant les années d'adolescence. Une façon de connaître la vie, mais aussi de savoir comment se lancer dans une aventure sans être pris. Venu l'âge adulte, les jeux de l'adolescence se sont faits plus sérieux, sur des sujets plus graves, mais toujours avec un regard décalé. À bientôt près de 10 ans de leur existence, comment le collectif Storhoven voit-il rétrospectivement cette décade de projets et d'actions coup de poing? Otto Horší suivi de Petr Žilka.
Nous regardons ce que nous avons fait en prenant de la distance. Il y a eu de nombreux projets, donc on peut aussi les comparer, voir que certains thèmes sont récurrents et qu'ils relient les projets entre eux.
A pro nás je to určitě zajímavý moment.
Já vlastně ve skupině nefunguji dlouho, jsem vlastně nejmladším členem.
Je ne suis pas dans le groupe depuis longtemps et je suis le plus jeune du groupe. Mais pour moi, c'est intéressant de suivre les discussions sur les projets passés et de voir que les différents projets vont ensemble, qu'ils créent une sorte de fil rouge qui, depuis le premier jusqu'au dernier, forme un ensemble logique. Les différentes opérations sont beaucoup plus intéressantes vues d'ensemble qu'individuellement. D'ailleurs, nous sommes en train de refaire tout notre site web dans ce sens pour présenter au public l'ensemble de nos activités et susciter la réflexion et la discussion.
Réfutant les rumeurs d'un départ de la figure de proue du groupe, l'artiste Roman Titz, récemment sorti d'un mois de prison pour son relookage de feu piéton, les membres du groupe Storhoven préfèrent avancer qu'à coup sûr, les 10 ans du groupe seront l'occasion d'un nouveau projet. Affaire à suivre donc.
Voilà, c'est la fin de ce programme d'information préparé pour vous par la rédaction française de Radio Prague. Je rappelle que vous pouvez retrouver toutes nos émissions sur notre site internet www.radio.cz/fr. Au revoir et à demain.